Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix Soli Porta.
Stella Maris. Une émission mariale proposée par le frère Clément Bonnou, franciscain de l'Immaculée, pour aller à la rencontre de Marie sur les chemins de l'espérance.
Bienvenue à vous, chers amis auditrices, auditeurs. Nous entamons aujourd'hui une nouvelle série de chroniques mariales dans le sillage des mystères glorieux que nous avons récemment médité. Mais cette fois, nous allons contempler Marie à travers les titres que l'Église lui donne dans les litanies de Lorette. Merci de nous rejoindre, merci pour votre fidélité, merci à Enzo qui va nous accompagner à la technique pour ces chroniques. Eh bien, les litanies de Lorette doivent leur nom au sanctuaire marial de Lorette, en Italie bien sûr, où elles furent chantées dès le XVe siècle. Mais c'est le pape Sixte V qui, en 1587, les a officiellement reconnues pour toute l'Église. Elles sont devenues, depuis lors, une prière aimé du peuple chrétien répété après le rosaire ou en procession. Ces invocations, Vierge fidèle, refuge des pécheurs, Mère du Sauveur, secours des chrétiens, ces invocations forment une véritable catéchèse mariale, un chant d'amour, une consolation dans les ténèbres et une profession de foi vivante. Ces titres ne sont pas des ornements poétiques. Ils expriment la place unique de Marie dans le mystère du salut. Elle est le reflet parfait de l'amour de Dieu, la transparence de Jésus, celle par qui Dieu s'approche de notre misère. Les litanies disent ce que l'Évangile montre. Marie mère et sœur, Marie servante et reine, Marie signe d'espérance et source de consolation. Saint Jean Damascène écrivait, je cite, « En toi, ô Marie, le monde retrouve la joie du salut. » Aujourd'hui, dans un monde blessé, troublé, inquiet, chaque titre de la Vierge est comme un flambeau dans la nuit. Lorsque nous disons « Salut des malades, refuge des pécheurs, consolatrice des affligés, secours des chrétiens, nous crions avec foi vers une mère qui écoute. Nous nommons l'espérance et nous entrons dans une prière portée par des siècles de confiance. Eh bien, le premier geste public de Marie dans l'Évangile, c'est à Cana. Ils n'ont plus de vin. Oui, nous sommes invités à contempler Marie, salut des malades. Marie voit le besoin, parle pour les autres, agit discrètement. Elle ne fait pas le miracle. Elle ouvre la voie, elle prépare le cœur du Christ, elle oriente le regard vers lui. En cela, elle est déjà salut des malades. Elle intercède, elle introduit, elle accompagne. Saint Bernard de Clairvaux disait, je cite, « En elle se trouve l'abondance de tous les biens. Elle est le remède aux blessures de nos âmes. » Et ce n'est pas seulement au niveau spirituel, bien sûr. L'Évangile nous montre le souci très concret de Jésus pour les malades et Marie y est associée dès le début. Elle manifeste une présence constante auprès des corps blessés et des âmes fatiguées. dans l'histoire de l'Église, Marie n'a cessé de visiter ses enfants souffrants. À Lourdes, elle se fait proche des malades et laisse couler une source. À Fatima, elle insiste sur la conversion, mais aussi sur la prière pour ceux qui souffrent. À Guadeloupe, elle se fait la petite mère qui porte les couleurs des peuples. Dans les hôpitaux, combien de fois une image de Marie est-elle posée près du lit, comme un regard qui console, une main invisible qui tient dans l'épreuve. Souvenons-nous, il y a quelques mois, de ce séjour du pape François, paix à son âme, à l'hôpital Gemelli, le regard fixé sur Marie. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 4, verset 23, nous lisons « Il guérissait toute maladie et toute infirmité ». C'est Jésus qui guérit, mais Marie nous conduit à lui comme une mère vers le médecin. Aujourd'hui encore, les blessures ne sont pas toujours visibles. Ce sont les solitudes, les angoisses, les tristesses profondes, les épuisements intérieurs. Marie ne juge pas la fragilité. Elle ne dit pas « il faut être fort ». Elle vient se tenir au chevet du cœur humain, là où il pleure, là où il lutte. Elle est la mère de la vie, celle qui nous dit que notre souffrance n'est pas une fin, que notre douleur a du prix aux yeux de Dieu et qu'elle peut, avec elle, être transformée en offrande. Dans nos épreuves, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite ou les chambres isolées, combien de fois la présence de Marie est-elle invoquée? Oui, nous sommes de cœur avec vous, vous qui êtes à la maison, vous qui êtes malade, vous qui suivez le chapelet depuis Lourdes sur Radio Présence, sur nos radios chrétiennes. Eh bien, Marie est à vos côtés. Un chapelet glissé dans la main d'un malade, une icône près du lit, un murmure « Je vous salue Marie ». Marie ne fait pas disparaître la souffrance, mais elle la traverse avec nous. Elle devient « Salut des malades » parce qu'elle offre avec tendresse la présence d'une mère et nous dit et nous conduit à Jésus. Oui, Jésus, le vrai médecin. Eh bien, je vais m'arrêter là pour cette première partie et nous allons aborder la deuxième partie avec la rencontre du Père Emmanuel Mvomo que nous avons déjà rencontré il y a quelques jours. Il est chapelain du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et nous allons parler avec lui de Marie, salut des malades en mission d'église. Aujourd'hui, nous recevons le Père Emmanuel. Avec lui, nous découvrons comment Marie continue aujourd'hui d'exercer son titre de salut des malades à travers la mission de Lourdes, les pèlerinages et la présence des reliques de Sainte Bernadette en France et ailleurs. Voilà, chers amis auditrices, auditeurs, on pense souvent que Lourdes est un lieu où l'on va, mais peu savent que Lourdes part aussi à la rencontre du monde grâce aux missions Notre-Dame de Lourdes et aux reliques de Sainte Bernadette. La Vierge Marie sort de la grotte pour toucher les cœurs jusqu'aux extrémités de la terre. Pour en parler, nous retrouvons aujourd'hui à nouveau le Père Emmanuel Mvomo, qui est chapelain à la grotte de Massabielle, qui est responsable de cette mission. Père Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
Alors, Père Emmanuel, bon, on vous a déjà rencontré, et juste en quelques minutes, secondes, j'allais dire, présentez-vous encore à nos auditeurs.
Oui, bon, de nouveau, bonjour, je suis le Père Emmanuel Mvomo, voilà, religieux de la Congrégation des Fils de l'Immaculée Conception, chapelain au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, d'origine camerounaise, et responsable des missions Notre-Dame de Lourdes au sanctuaire.
C'est justement pour ça que nous vous retrouvons aujourd'hui. Et pouvez-vous nous expliquer le sens de cette mission que vous avez?
Les missions Notre-Dame de Lourdes veulent répondre justement à une nécessité, comme vous l'avez dit vous-même, On pense que, voilà, il faut aller au pèlerinage à Lourdes. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est important. Je vous invite d'ailleurs. Cependant, nous sommes aussi conscients à Lourdes que, voilà, tout le monde n'a pas la possibilité de venir. Et on veut aussi permettre à d'autres de vivre Lourdes à la maison. Voilà pourquoi, en répondant à certaines nécessités depuis une certaine période, le sanctuaire de Lourdes s'est ouvert à ce que nous appelons donc les missions Notre-Dame de Lourdes, c'est-à-dire ces missions qui permettent aux chapelains de Lourdes d'aller vers des sanctuaires, des diocèses, des conférences épiscopales et autres, selon les invitations, pour vivre des missions. Et pendant ces missions, on essaye de vivre tout ce qu'on peut vivre à Lourdes, c'est-à-dire les catéchèses, le geste de l'eau, les célébrations eucharistiques, les célébrations pénitentiaires. Bref, aider des personnes tout en étant chez elles à accueillir Notre-Dame de Lourdes. Évidemment, généralement, nous accueillons Notre-Dame de Lourdes ainsi que les reliques de Sainte Bernadette qui viennent donc à notre rencontre.
Alors, pour faire voyager Marie et Bernadette, certains pourraient se demander pourquoi ne pas simplement inviter les gens à venir à Lourdes et quelles sont les grâces que vous avez déjà eues, l'expérience que vous avez déjà eue en faisant ces voyages de ces reliques.
Oui, je pense que on peut repartir à la base et dire que la Vierge elle-même ne s'est pas contentée de rester où elle est. Elle est venue, voilà, à Lourdes, à Fatima, à Poma, partout où nous avons les apparitions. C'est un peu dans ce même sens que ces sanctuaires, et en particulier Lourdes, veulent aussi aller rejoindre les pauvres du Seigneur. Et quand je dis pauvres, je ne pense pas uniquement à la pauvreté matérielle, mais à tous ceux-là qui veulent aussi accueillir la grâce de Lourdes chez eux. Et je pense que, en termes de témoignages, je peux vous parler d'un voyage que j'ai moi-même effectué sur Nantes, dans deux paroisses dans le diocèse de Nantes, et j'ai vu la ferveur, j'ai vu la foi, j'ai vu l'accueil que ces Nantais ont réservé à la Vierge Marie, en se sentant vraiment fils et fille de Marie, en disant que voilà, elle est venue chez nous, elle est aussi venue chez nous. Et ça, nous voulons le faire ressentir à tous les peuples de la terre où c'est possible d'arriver et de vivre une mission avec Notre-Dame de Lourdes.
Vous avez encore d'autres significations spirituelles de ces voyages de la Vierge, de ces reliques?
Oui, les voyages de la Vierge et des reliques n'ont pas un autre sens spirituel que celui de la visitation. Que celui de la visitation, la Vierge qui va visiter ses enfants, Bernadette qui va à la rencontre des uns et des autres, pour porter le même message de conversion, le même message de pénitence, le même message de retour à Dieu qu'elle a bien voulu porter ici à Lourdes. Donc, en allant vers les uns et les autres, nous voulons justement perpétrer et continuer ce message de pénitence, de conversion et de filiation à Dieu qu'elle nous a porté ici à Lourdes.
Et à part l'expérience que vous avez citée tout à l'heure de Nantes, avez-vous
Oui.
des histoires fortes vécues lors de cette mission?
Oui, les histoires fortes, je vous rassure, il y en a une pléiade, parce que à chaque lieu où la Vierge se déplace, en fait Notre-Dame de Lourdes, vous voyez cette communion avec le peuple qui manifeste non seulement son amour pour la Vierge, mais aussi ses traditions culturelles et religieuses dévotionnelles propres. Faire une mission en Irlande n'est pas la même chose que faire une mission en Belgique, qui n'est pas la même chose que faire une mission en Italie, qui n'est pas la même chose que faire une mission aux États-Unis, pour ne citer que cela. Vous voyez que chaque peuple accueille, hein, la Vierge avec son background dévotionnel, son background spirituel, son background culturel, et je vous rassure que c'est souvent des moments très fort, très pointu, très, très parlant pour nous. Et l'autre point, c'est que finalement, les chapelains qui se déplacent pour ces missions, finalement, ils apprennent beaucoup. Ils apprennent beaucoup de ce que les peuples vivent et comment les peuples accueillent la Vierge Marie.
Qui dit Lourdes, dit Bernadette, et que nous enseigne la figure de Sainte Bernadette pour notre temps, Père Emmanuel?
La figure de Sainte Bernadette ne peut que nous enseigner l'humilité, la simplicité et l'obéissance à la voix de Dieu. La figure de Sainte Bernadette nous enseigne la vérité, savoir dire la vérité, rien que la vérité, au-delà de tout ce que cela peut comporter. Donc, venir et voyager avec les reliques de Sainte Bernadette, c'est communier non seulement avec la Vierge Immaculée, évidemment, mais communier avec celle qui a eu cette grâce-là de faire l'expérience, hein, de ces rencontres, de ces 18 rencontres de grâce avec la Vierge Marie. Et voyager avec Bernadette veut aussi nous faire comprendre à tous ceux vers qui nous allons, que tout est possible. La grâce de Dieu est disponible pour tout un chacun. Parfois, c'est à nous d'ouvrir notre cœur et de faire cette rencontre avec le mystère de Dieu.
C'est une association que vous conduisez et qui aide les autres à découvrir la grâce mariale. Vous travaillez avec des laïcs. Quel est le rôle des laïcs dans tout ce travail missionnaire que vous faites?
Oui, au sanctuaire de Lourdes, nous avons vraiment la culture des binômes. La culture des binômes, c'est-à-dire être toujours aller ensemble, les prêtres et les laïcs, parce que l'Église, c'est celle-là. Depuis le Vatican II, on a compris que l'Église ne peut plus être sous une autre forme que celle de la synodalité, que celle du travail commun entre laïcs et consacrés. Et donc, dans cette mission, pour les missions Notre-Dame de Lourdes, nous avons cette collaboration à l'interne, cette collaboration avec nos collaborateurs laïcs avec qui nous organisons ces voyages dans le monde.
Et nous allons nous quitter aujourd'hui, Père Emmanuel, mais dites-nous, comment faire pour bénéficier de ces visites de la Vierge Marie, de reproduire tout ce qui se vit ici à Lourdes et de bénéficier de la présence des reliques de Sainte Bernadette?
Pour bénéficier d'une mission Notre-Dame de Lourdes et des reliques de Sainte Bernadette, il suffit, c'est une mission d'église en fait, c'est une mission d'église. Donc, il suffit que un évêque, un prêtre, une conférence épiscopale ou zonale, je ne sais pas, s'adresse au recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes ou directement au bureau des missions Notre-Dame de Lourdes. Et ensemble, nous allons organiser fraternellement cette mission dans une collaboration fraternelle entre ceux qui invitent et nous qui sommes disponibles à y aller.
Un curé aussi peut inviter.
Tout à fait, un curé peut inviter et organiser, même certains chefs d'établissement catholiques, hein, peuvent également inviter. Il suffit que ce soit une autorité ecclésiale ou un responsable d'une œuvre d'église. Oui, on peut recevoir cette invitation, travailler ensemble et aller sur le terrain.
Vous avez un message pour finir notre rendez-vous d'aujourd'hui en parlant de Bernadette et de ses reliques et de la visite de Marie?
D'abord, sincèrement, je dois vous faire un témoignage. J'ai été à Nevers, j'ai pu contempler, vénérer et prier devant le corps de Bernadette. Et je dis que pour moi, c'est une grâce. Ce serait une grâce pour chaque peuple, pour chaque diocèse, pour chaque paroisse, pour chaque sanctuaire de recevoir cette visite des reliques de Sainte Bernadette et évidemment de la Vierge Marie, accompagnée de tout ce que les chapelains qui font ces voyages peuvent nous offrir comme enseignement, comme prière.
Père Emmanuel, merci.
Merci à vous.
Eh bien, merci au Père Emmanuel pour ce deuxième rendez-vous. Nous espérons le retrouver pour un troisième rendez-vous encore.
Eh bien, comment vivre aujourd'hui sous le regard de Marie, salut des malades? Il n'est pas facile de souffrir, c'est vrai. Il n'est pas naturel d'accepter la douleur. Mais avec Marie, la souffrance n'est plus une impasse, elle devient un passage. Lorsque Jésus monte au calvaire, Marie ne l'empêche pas de souffrir, mais elle est là, présente, aimante, silencieuse. Et cela change tout. Elle transforme la souffrance en acte d'amour partagé. Pour chacun de nous, offrir notre souffrance signifie la remettre entre les mains de Dieu, ne pas la cacher, mais l'unir à la croix et la confier à Marie pour qu'elle la porte avec nous. Sainte Faustine Kowalska écrivait dans son journal, je cite, « J'ai découvert que la souffrance, accueillie avec amour, devient le plus puissant moyen de sanctification. » Avec Marie, nous apprenons que ce n'est pas la douleur qui sauve, mais l'amour dans la douleur. Parfois, on ne sait pas quoi dire à un malade. Les mots sont pauvres, maladroits. Le silence pèse. Mais un « Je vous salue Marie » dit doucement. C'est inviter une présence maternelle à entrer dans la pièce. C'est créer un espace de paix autour de la souffrance. Le rosaire prié pour les malades devient alors comme un fil d'or qui relie la douleur humaine à la miséricorde divine. Et Marie, salut des malades, prie avec nous, pleure avec nous, attend avec nous. Pour ne pas reprendre la belle habitude de confier chaque jour un malade à Marie, pourquoi ne pas le faire encore aujourd'hui? Oui, nous pouvons le faire. En paroisse, lors de l'offertoire de la messe, offrir un malade. En famille, autour de la table, une petite prière pour les absents, pour les malades. En silence, dans le secret du cœur, chaque prière devient une goutte de baume sur une blessure invisible. Saint Jean-Paul II, dans « Salve Vici Doloris », dit ceci, la souffrance unie à celle du Christ devient une prière puissante pour le monde. Eh bien, Marie ne guérit pas toujours, mais elle console toujours. Je répète, Marie ne guérit pas toujours, mais elle console toujours. Et elle nous apprend à faire de même. Être salut des malades, c'est pour elle se pencher sur les corps blessés, mais aussi sur les âmes fatigués, les vies brisées, les cœurs sans espérance. Et à notre tour, nous pouvons être Marie pour les autres, quand nous prenons le temps d'écouter sans juger. Quand nous visitons un proche isolé ou hospitalisé, quand nous prions pour un ami qui traverse la maladie, alors nous devenons ces mains tendues, ces regards consolants, cette tendresse maternelle. J'étais malade, et vous m'avez visité. Matthieu 25, verset 36. C'est là que joue le royaume, dans le secret d'un couloir d'hôpital, dans la discrétion d'une visite, dans une main serrée. Saint François de Sales écrivait « Rien n'est petit aux yeux de l'amour. Ce qui compte, c'est la charité avec laquelle on agit. » Eh bien, je voudrais finir. Chers frères et sœurs, Marie est salut des malades parce qu'elle nous conduit vers Jésus, médecin, parce qu'elle pleure avec ceux qui pleurent et parce qu'elle nous aide à faire de nos blessures un lieu de rencontre avec l'amour de Dieu. Ô Marie, salut des malades, toi qui nous as donné Jésus, guéris notre cœur. Relève notre espérance et marche avec nous dans nos douleurs. Amen. Merci pour votre aimable attention. Merci à Enzo de l'autre côté de la baie vitrée qui nous a accompagnés à la technique. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.